Hey. How you doing?
Bienvenue au bureau des légendes.
Somebody royally forked up.
Un épisode et j'arrête.
Dracarys.
Une émission présentée par l'ACS.
C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire.
L'association des critiques de séries en partenariat avec Beta Série, la radio.
These violent delights to violent ends.
Bonjour à tous et bienvenue dans Un épisode et j'arrête, le podcast de l'ACS, l'association des critiques de séries en partenariat avec Beta Série. Paris Police 1900 nous transporte à la belle époque avec ses tailleurs-jupes. OVNI nous plonge dans les 70s avec ses cols pelle à tarte et ses pattes d'ef. 3615 Monique fait revivre les mémorables choucroutes des années 80. Les dernières séries ont une furieuse tendance à nous faire voyager dans le temps. Et dans le passé, pour être plus précis. Pourquoi les séries françaises regardent-elles dans le rétro? Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir deux têtes couronnées, la Meghan Markle de TV Magazine, Julia Baudin, bonsoir.
Bonjour, bonsoir. Je préférerais être Kate Middleton que Meghan Markle, entre nous, je trouve.
Ah, dommage, parce que Kate Middleton est déjà là, c'est Constance Jabbé du Figaro. Bonsoir, Constance.
C'est ça.
Salut, salut. On va essayer de ne pas divorcer avec Meghan.
Ah, surtout pas. Et quant à moi, je suis Stéphanie Fuseau de Télé Loisirs et vous l'aurez compris, je tiendrai ce soir le rôle de Stéphane Bern des séries.
Oh ! Regardez, là !
Messieurs, on ne bouge plus.
Vous pensez vraiment qu'elle s'est noyée ?
Le nombre de femmes disparues au cours de l'année 1899 dans Paris s'élève à 247.
Vous n'êtes pas un peu jeune pour enquêter sur un meurtre ?
On réfrène son orgueil, on ne cède pas à ses désirs de violence.
Police, ouvrez!
Et on devient enquêteur.
Le courtisane à moucharde, la panthère aide.
On gagne sa vie comme on peut.
Enfin, un informateur splendide pour la sûreté parisienne.
Voilà qui vous attend!
Bienvenue à l'anti-juif.
Le préfet Lépine de retour aux affaires.
Pourquoi moi?
Eh bien, ma chère, vous êtes de retour au sommet.
Dreyfus va être rejugé. La moitié de la France va devenir folle à cette occasion. Où serez-vous, monsieur, quand votre pays aura besoin de vous?
Vous êtes doué pour une amatrice. C'est ce qui vous perdra.
Attention. La dernière fois que j'ai fait l'amour à un homme, il en est mort.
Et en plus, elle est coquine.
Est-ce que cette bouche fatale est fiable?
J'avais confiance en toi.
Vous êtes autorisé à employer la force.
Seulement cette paix.
Au nom de Dieu.
Envoyer un homme à la guillotine pour étouffer cette affaire.
Alors, Canal+ a lancé ce lundi 8 février sa nouvelle création originale, Paris Police 1900. Une série historique et policière située à la Belle Époque, une époque qui n'a de belle que le nom, nous dit Canal+. Effectivement, la série ne fait pas dans la dentelle. Alors déjà, qu'en avez-vous pensé? Julia, qu'est-ce que tu as pensé de Paris Police 1900?
J'en ai pensé beaucoup de bien, je vous dirai pourquoi. Mais il y a quand même une première chose, s'agissant de la Belle Époque. C'est un raccourci un petit peu grossier du point de vue historique. Je ne suis pas historienne du tout, mais il me semble que la Belle Époque, c'est plutôt les années 20 et 30, c'est-à-dire la période de l'entre-deux-guerres, mais entre les Première et Deuxième Guerres mondiales. Là, la Belle Époque dont nous parlons, et qui n'est pas si belle que ça, effectivement, c'est les toutes premières années du XXe siècle, et c'est donc plutôt entre la guerre de 1870 et la Première Guerre mondiale. Voilà, donc on n'est pas du tout dans le Paris encore des cabarets, des théâtres, des femmes qui s'émancipent véritablement, des cheveux qui se raccourcissent. On est encore dans un Paris dégueulasse, mal géré, enfin comme on va le dire, et puis je ne veux pas tout dire en un coup, mais au-delà de ce postulat et de ce slogan de Canal+, qui ne situe pas très bien, selon moi, la Belle Époque, c'est une série qui est plutôt vachement bien fichue, et sur le plan visuel, et sur le plan scénaristique, et sur le plan des dialogues, et sur le plan des personnages, si ce n'est le traitement de l'affaire Dreyfus, qui là, effectivement, est un peu sujet à caution.
On reviendra là-dessus. Effectivement, je crois que la série se passe vers 1895, quelque chose comme ça. Constance, toi, quel est ton avis sur Paris Police 1900? Qu'est-ce que tu en as pensé?
Je crois que la série, elle s'ouvre en 1899, donc le titre est déjà un peu fallacieux. C'est pas vraiment Paris en 1900, c'est Paris un tout petit peu avant.
Là, tu vas fort.
Ah, je pinaille, je suis d'accord. Et non, alors moi, j'ai trouvé la série très impressionnante. Je plus sois ce que dit Julia, au point de vue de la mise en scène, c'est une mise en scène qui est pas du tout contemplative, qui est vraiment très atmosphérique, qui emprunte plein de choses au western, au film noir, au polar. Et c'est pas du tout le costume drama empesé, trop respectueux. On sort complètement de cette vision opulence, luxueuse, glamour. Et ça, je trouve que c'est bienvenu, d'autant plus amusant de faire ça dans la section historique La Belle Époque, puisque c'est un peu, on se dirait, ah bah ça pourrait être une espèce de Downton Abbey dans la grande bourgeoisie, et pas du tout. Ah, on est plus proche justement des années 20 avec Peaky Blinders, comme dirait Julia, dans l'ambiance. Et alors après, ben, j'ai trouvé la série très agréable à suivre sur le long cours, mais je trouve que les premiers épisodes, on a peut-être l'occasion d'en parler. On met du temps avant d'entrer dans Paris Police 1900. Il y a un énorme déploiement de personnages, de couches sociales, de thématiques, et c'est un petit peu à labyrinthe dans lequel il faut accepter d'entrer. Il ne faut pas avoir désiré les réponses tout de suite, quitte à être un petit peu frustré. Donc, pour moi, c'est une série qui vaut le coup qu'on persévère, mais il faut accepter de persévérer pour comprendre. Déjà, enfin, par exemple, dans quelles différentes branches de la police sont en rivalité avec la préfecture. Moi, il m'a fallu quelques épisodes pour bien comprendre qui faisait alliance avec qui et qui défendait quelles opinions politiques ou pas. Donc, je trouve que c'est une série vraiment qui assume ses ambitions de mise en scène et aussi de narration, puisque le temps que tout s'installe, il faut du temps. Et peut-être que ça, on avait un peu perdu l'habitude.
Bah, globalement, vous avez quand même deux avis assez positifs et on sent qu'il y a beaucoup de choses à dire. Effectivement, c'est une série qui est assez choc. Bon, voilà, ça commence par une scène de fellation, par exemple. Il y a des scènes crues, il y a un porcinet qui se fait égorger. Donc, derrière les décors immaculés, finalement, de Paris Police 1900, il se cache une critique féroce de la société de l'époque. Puis en filigrane, on peut se dire une critique de notre société actuelle. À votre avis, est-ce qu'il est plus facile de parler de politique, de féminisme, de violence, de drogue, de prostitution, de sexe, tout ce qu'on voit dans cette série-là, lorsqu'on situe une intrigue dans un passé lointain, Constance?
Alors, peut-être qu'il est plus facile d'avoir le recul de plusieurs années pour se demander qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui ne change pas entre le point de la fiction et l'époque où on est maintenant. Et aussi, en prenant le recul de l'histoire, on peut s'éloigner de polémiques actuelles trop sensibles. Mais je pense que moi, ce qui m'a aussi intriguée, outre les parallèles avec Paris, avec entre 1900 et 2020, c'est aussi qu'en photographiant cette société en 1900, quelque part, on comprend mieux tout l'effondrement qui se passe ensuite, dans les années 30, avec la montée des totalitarismes et l'antisémitisme de la Seconde Guerre mondiale. Quelque part, cette photographie de cette société-là, ça nous montre aussi pourquoi on en arrive là, en 1930, en 1940. Et je trouvais que c'était intéressant de montrer toute cette violence qu'on a peut-être oubliée parce que c'était l'époque avant-guerre, c'était avant la guerre, donc c'était la prospérité, le progrès, la science. Et peut-être que finalement, cette série nous rappelle que c'était pas aussi simple que ça.
Oui, c'est vrai qu'on a peut-être des images d'Épinal comme ça, de penser que cette belle époque, c'était formidable, que c'était très beau. Julia, est-ce que toi, tu as appris beaucoup de choses? Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur notre histoire, sur l'antisémitisme, sur la violence de cette époque. Est-ce que toi aussi, tu as appris pas mal de choses en regardant cette série?
Je n'avais de l'affaire Dreyfus et de cette période particulière que le vague souvenir de ce qu'on nous enseigne en histoire, et c'est une période qui est très très peu abordée dans les cours d'histoire. Mais il suffit de lire Zola, par exemple, pour avoir une petite idée du Paris et des bas-fonds du Paris de l'époque. On lit le ventre de Paris, par exemple, et on est pris dans cette espèce de tourbillon d'odeurs, de saleté, de rats, de femmes vulgaires, d'hommes encore plus vulgaires, de le côté crasseux et poissard et poisseux et la stratification. Je suis pas sûre que ce soit le mot adéquat, mais la oui, c'est ça, c'est un travail d'archéologie d'une couche sociale à l'autre et comment chacun se démène dans son propre milieu, dans son propre groupe. Et ça, ce que Fabien Nury en a fait, avec le producteur Emmanuel Dossé, qui est passionné d'histoire aussi et qui a fait Le Village français, eh bien, c'est très foisonnant, c'est très riche et c'était très risqué de faire, de construire, de tricoter une grande histoire sur un truc aussi riche et aussi effectivement compliqué. Parce qu'il n'y a pas que, effectivement, toutes les problématiques, l'effet miroir entre le 18e ou le 19e, même le 17e et le monde d'aujourd'hui, il est intéressant. Et effectivement, il y a peut-être une petite facilité. C'est plus facile, moi je suis d'accord avec Constance, quand on dit que c'est plus facile de parler des problématiques actuelles en les renvoyant à ce qu'elles étaient il y a 50 ou 100 ou 200 ans. Mais c'est vraiment partir de cette affaire Dreyfus qui a été et qui reste, je pense, un truc vachement compliqué et vachement délicat dans la chronologie historique de la France, quoi. C'est vraiment pas un chapitre glorieux de notre histoire, et d'arriver à construire quelque chose qui soit aussi passionnant sur ce sujet-là en faisant fi de tout ce qui est possible de dire, parce que j'entends plein de gens autour de moi qui disent « Ah oui, mais non, mais c'est pas comme ça qu'il aurait fallu traiter ça, mais vous vous rendez compte, l'affaire Dreyfus quand même, il en a fait un truc de BD. » Eh ben ouais, mais Fabien Dury vient du monde de la BD, donc pourquoi pas.
Du coup, on reproche à la série de faire un truc de BD, mais c'est au contraire une série très exigeante, comme on le disait tout à l'heure. Et est-ce que c'est vraiment sur l'affaire Dreyfus? Parce que finalement, on voit aussi les débuts de la police scientifique, on voit la première femme avocate. Voilà, il y a quand même plein de petites touches sociales qui essaient de parler un peu de notre monde d'aujourd'hui. Est-ce que c'est pas une série salutaire finalement qui essaie de nous mettre un peu le nez dans notre histoire et dans ce qui n'est pas forcément glorieux justement?
Il est possible que le millefeuille soit tellement dense et qu'il y ait tellement de couches successives que on se perde un tout petit peu dans tout ça. Il y a peut-être des épisodes même qu'il faut revoir mais comme les bons films hein, d'ailleurs, pour les comprendre, pour en trouver, pour détricoter les deuxièmes et troisièmes pistes de lecture, il faut souvent revoir les choses. Et c'est une série qui, de ce point de vue-là, est très intéressante. Non, quand je parlais de l'affaire Dreyfus, c'était pour dire que il y a des gens qui sont un peu choqués que justement l'affaire Dreyfus ne servent que de prétexte à une énorme fresque sociale et sociétale sur laquelle, effectivement, qui explique, comme le dit Constance encore, tout ce qui va se passer ensuite et les racines, enfin les prémices de la Première Guerre mondiale qui débouchera sur la Deuxième Guerre mondiale ensuite. Enfin, tout le XXe siècle est là, en fait, peut-être. On pourrait dire ça, pourquoi pas.
Ouais. En vous écoutant toutes les deux, du coup, j'ai l'impression que vous conseillez plutôt de regarder cette série, mais comme tu disais, Constance, qu'il faut s'accrocher dans les premiers épisodes parce qu'il y a beaucoup de personnages, parce que l'histoire est complexe. Qu'est-ce que tu en as retenu de cette série et qu'est-ce que tu peux, si tu la conseilles à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais?
Alors, pour rebondir un peu, pour compléter ce que disait Julia, je pense aussi que ce que dit la série, c'est que finalement, faut pas regarder en arrière en idéalisant trop ce qui se passait il y a un siècle. De se dire, finalement, cette belle époque était pas tellement... Elle était peut-être un domaine de progrès scientifique et de prospérité, mais c'est pas quelque chose qu'on doit regretter, regarder en arrière. C'est aussi, pour la série, c'est aussi une incitation à arrêter de se dire « c'était mieux avant ». C'est pour me dire que entre avant et aujourd'hui, finalement, il y a des combats qui sont toujours là, il y a des combats qui ont progressé, mais qui, c'est peut-être aussi, je pense, dans l'esprit du créateur, c'est l'idée de dire qu'il faut regarder devant nous et pas tout le temps dans le rétro, dans le miroir. Et du coup, enfin moi, ce qui m'a particulièrement touchée dans cette série, c'est moins le contexte politique que je trouve très intéressant que ce portrait d'héroïne, parce que chacune des héroïnes dans les différentes strates, aussi bien donc Jeanne Chauvin qui joue la première avocate, que la femme du préfet Lépine qui se révèle très surprenante. Au départ, on se dit c'est une épouse mélancolique, délaissée.
Elle est formidable, cette femme-là.
Qui est complètement addict à l'opium. C'est une épave. Et en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus curieux qui se produit dans la série. Et même quand on prend aussi la maîtresse de Félix Faure, donc Marguerite Stahlein, je suis désolée, je ne suis pas sûre que je prononce comme il faut. Finalement, c'est des héroïnes qui sont, à cause de leur sexe et de leur genre, en retrait parce qu'elles ne peuvent pas intervenir directement sur l'action, mais qui chacune va se montrer décisive. Et je trouve que ce que fait, pour moi, la révélation de la série, c'est un peu ce portrait des femmes. On a tout, on a celles qui s'émancipent, celles qui essayent de survivre, les conjointes qui sont des pures ménagères. Et enfin, moi, ce qui m'a vraiment, quand j'ai vu la série, c'est vrai que ça m'a remis plein de choses en tête. Enfin, le fait qu'on pouvait pas divorcer, que c'était compliqué, que c'est compliqué de travailler, que finalement, on est encore dans un monde où pour s'émanciper, il faut soit être très anticonformiste, soit se marier et espérer que le mariage se passe bien. Et je trouve que c'est ce portrait de femme, alors que je n'attendais pas du tout ça de la série, qui, moi, m'est resté le plus longtemps, finalement.
Ouais, c'est une série plutôt étonnante, du coup, qu'on vous conseille. On vous conseille de vous accrocher, ça vaut le coup, vous apprendrez plein de choses.
Tu connais le GEPAN, groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés ? Pas les ovnis, quoi. Tu prends la tête du GEPAN.
Moi, j'y connais rien, un ovni.
Mais il existe vraiment, ce bureau ? Moi, je croyais que c'était une blague.
Donc, il était comment, ce vaisseau ?
L'invasion a déjà commencé ?
Commandant Valérie Delbrosse, direction de la sécurité militaire. Arrêtez de poser des questions.
Mais tu t'occupes des ovnis, toi, non ?
Le travail, c'est plus important que moi.
Eh ben, disons que...
GEPAN, bonjour.
Préparez-vous à être bousculé dans vos certitudes.
Alors justement, le c'était mieux avant, on va peut-être y retourner avec les séries dont on va parler maintenant. On va parler des années 70 avec OVNI, la nouvelle création originale de Canal+. On va parler de la troisième mouture des petits meurtres d'Agatha Christie sur France 2 et sur Salto. Et puis des années 80 et du Minitel, regretté ou pas, avec 3615 Monique sur OCS. Alors selon vous, est-ce que les références culturelles visent à attirer un public plus mainstream ou bien les productions jouent-elles à fond la carte de la nostalgie pour un effet doudou ? Qu'est-ce que tu en penses, Constance ?
Alors moi, je ne sais pas parce que je suis née juste au début des années 80, donc pour moi, l'effet nostalgie
de... Ça va.
L'effet nostalgie d'OVNI, moi, ce qui m'a... Enfin, dans OVNI, ce qui est effectivement, dans les deux cas, enfin... Aussi bien OVNI que Monique, ça invoque un peu la France de VGE, la fin des Trente Glorieuses, début de Mitterrand, tout est possible. Il y a peut-être effectivement un petit côté, ce côté insouciant, loin des soucis qu'on a de nos jours. Mais enfin, ce que je trouve bien, c'est que ces séries, même si c'est des comédies, elles arrivent à replonger dans l'époque sans la singer finalement. Parce que aussi bien OVNI que 3615, je suis plus réservée sur les petits mains d'Agatha Christie, mais aussi bien 3615 Monique que OVNI, ça montre l'époque, mais sans trop le côté débordement, fuchsia, tapisserie hallucinogène. Enfin, je trouve qu'il y a une tendresse, une manière d'évoquer cette société qui change, ses pères un peu largués, face à une jeunesse qui est pleine d'idéaux et de rébellion. Je trouve que c'est effectivement assez touchant. Désolée, je crois que je n'ai pas forcément répondu à ta question. Mais...
Ah ben si, complètement. Mais alors, cette petite réserve, du coup, sur les petits meurtres d'Agatha Christie, c'est effectivement ce décorum vraiment appuyé sur les décors des années 70 pour faire péter tout ça, en fait.
C'est ça que je trouve que c'est même, enfin, c'est vraiment de la caricature, quoi. C'est même pas un pastiche. Enfin, alors moi, j'ai regardé que le premier épisode de cette nouvelle save. Peut-être que ça s'adoucit ensuite, mais j'ai trouvé que le côté, je suis une femme flic et si j'échoue, toutes les femmes flics échouent. L'adjoint qui est en train de perdre sa femme mais qui veut pas le dire et qui joue les machos, j'ai trouvé ça fatigant et ça m'a un peu tapé sur le système. Alors que je trouve que on aurait pu réduire le curseur de la caricature et avoir un peu après la même chose.
Alors peut-être que ces séries, justement, Julia, peut-être misent un peu plus sur le décor et sur l'ambiance, l'atmosphère de l'époque, plus que sur le propos, en fait, le propos social. Ou qu'est-ce que toi, tu as pensé de ces séries-là et qu'est-ce qu'elles évoquent par rapport à ce que nous a dit Constance ?
Il me semble que Les Petits Meurtres, c'est une série qui est beaucoup plus grand public que OVNI ou que 3615 Monique. D'un côté, il y a une série Canal+, De l'autre côté, il y a une série OCS Signature et Les Petits Meurtres, c'est quand même une production de France 2 qui fonctionne très bien, mais qui est un polar, qui est une série de polars comme il y en a beaucoup, qui est plutôt mieux faite que la grande majorité des séries de polars traditionnelles et qui se trouve être en costume. D'où, je pense, le fait que ressort peut-être de façon un petit peu plus brutale le côté artefact de la reconstitution historique parce que le scénario et l'intrigue et les personnages sont moins travaillés. Je dirais pas ça parce que ce serait pas sympa pour les auteurs parce qu'il y a de bons auteurs derrière, mais moins complexe pour une série qui est censée durer probablement plus longtemps. OVNI, c'est quelques épisodes. Est-ce qu'il y aura une saison 2 j'ai pas vérifié. Est-ce que c'est prévu? Non, c'est prévu.
Oui, il y a déjà une saison 2 de lancer. Ouais.
On est dans deux catégories. Enfin, c'est des séries qui jouent pas tout à fait dans la même cour. Et donc, il y a le côté, peut-être, voilà, ce que je vais au risque de me répéter, le côté un petit peu appuyé de la reconstitution qui disparaît dans OVNI, qui est peut-être, où la colorimétrie est pas non plus la même, et qui OVNI, ça fait plutôt penser un peu, aux adaptations de Philip K. Dick par exemple, alors que dans un truc un petit peu plus passé, un petit peu plus cinématographique que Les Petits Meurtres. Je suis moins féroce que Constance. Quant aux personnages, après on peut en parler aussi, mais je crois qu'il y a aussi une question de quel public on vise et de quel programme on propose.
Oui, justement, c'est ça, quel public on vise. C'est-à-dire que Les Petits Meurtres, on sait qu'on vise un public assez large. Est-ce que aujourd'hui, finalement, ça vise pas un public plus jeune? Ça a été un peu la surprise, le petit effet surprise qui a un petit peu fait le buzz. Elle a beaucoup plus marché sans vraiment que Canal fasse une grosse campagne de pub autour comparée à Paris Police 1900, par exemple. À quoi c'est dû? Parce que c'est pas une période qui parle aux jeunes, même si elles adorent le vintage. À quoi ça peut être dû, ça? Est-ce que, Constance, toi qui viens des années 80, quel regard tu portes là-dessus? Est-ce que tu penses que c'est vraiment une question de cible, finalement, plus que d'époque?
Par rapport à OVNI ou par rapport à... Ou tu inclus Monique aussi dedans?
Ça peut être les deux. Ça dépend ce que tu veux nous dire sur Monique.
Mais en fait, donc sur OVNI, moi je pense que elle parlait d'ailleurs, et ça marche aussi sur Monique, c'est arrivé à un moment où effectivement on a besoin de tendresse, de comédie, un peu de légèreté. Et je trouve que sur OVNI, ce qui est très drôle et c'est moins prégnant, et c'est un peu prégnant sur Monique aussi, c'est qu'en termes d'écriture, c'est plus jeune, il y a beaucoup plus un travail de clin d'œil, d'easter eggs, de références que les gens de mon âge vont comprendre. Peut-être que nous, c'est déjà un petit peu tard par rapport au public des Petits Meurtres, mais dans OVNI, il y a des références à Spielberg, à David Bowie, il y a vraiment une pointe d'X-Files aussi, c'est aussi un effet nostalgique qui joue un peu sur le fantastique du début des années 90. Et après, dans OVNI, je trouve que ce qui est très agréable, c'est que c'est quelque chose qui est un peu dans le surnaturel, mais beaucoup dans le surréalisme aussi, donc il y a toute une poésie, je pense, qui est très entraînante. Quand tu vois qu'on arrive avec un flamand et des esquimaux, t'as envie de rester et te demander mais qu'est-ce qu'ils vont nous sortir ensuite. Et je pense aussi que de ce point de vue-là, peut-être qu'effectivement c'était la bonne formule. Il y a un côté un peu Pierre Richard au personnage de Melville Poupeau, de ceux du Guémature. Et donc après sur OVNI, je pense que il y a un côté un peu branquignol des Mark Zuckerberg, un peu tâtonnant à la française, qui est assez assez sympathique aussi. Puis bon, le sujet, c'est un peu le Minitel rose, et donc il y a quelques bons mots un peu croustillants, c'est gentiment un peu lascif et grivois, enfin pas du tout, mais enfin il y a un côté enfin voilà, c'est je pense que c'est arrivé au bon moment pour nous. C'est l'hiver, ça fait un an qu'on rigole pas beaucoup, et il y a un côté, je trouve, très agréable d'avoir toute cette bande de petits jeunes, aussi bien les petits jeunes qui bossent chez OVNI que les petits jeunes qui montent 36-15 Monique. Ce côté un peu, on se débrouille, on est un peu amateur et on découvre le domaine et on y va.
Oui, c'est des séries qui sont arrivées dans le bon timing, en fait, avec le bon ton, juste quand on en avait besoin pour nous réconforter un peu. Alors, autre tendance, justement, des séries, c'est aussi de vouloir dépoussiérer le genre et de s'adresser, comme on le disait, à un public plus jeune, en rendant l'emballage et le propos plus attractifs, avec des thématiques, des dialogues et des musiques plus actuelles. Le sexe et la violence, par exemple, sont très crus dans Paris Police 1900, ce qui, dans les séries historiques, bon... C'est vrai que Canal, avec Versailles, l'avait déjà fait, mais bon, normalement, c'est assez quand même correct. Les femmes dans Les Petits Meurtres, dans Paris aussi, ont un rôle prépondérant à une époque, finalement, où elles avaient un rôle qui était très minime. Elles commençaient juste leur bataille pour... D'ailleurs, on est toujours dedans. Est-ce qu'une série historique, elle doit être dans la mouvance de l'époque actuelle, ou alors est-ce qu'elle doit être la transmission de notre histoire et avoir ce devoir de mémoire, Julia?
Ça dépend. Si tu te places du point de vue du service public, il y a une transmission, il y a une volonté pédagogique aussi. Si tu te places du côté de Canal+, non, il y a plus, on est plus dans le divertissement ou dans l'objet sériel très très abouti et très esthétique. Oui, il y a des choses à dire, il y a des choses à transmettre, il y a des choses qu'on n'a pas envie, il y a des choses qui s'oublient et qu'on n'a pas envie d'oublier. Il y a aussi cette mode qui nous vient des États-Unis, de Netflix et de Stranger Things notamment, qui est cet art de la référence et du clin d'œil et de l'easter egg aussi, comme le disait Constance, où on a vachement de plaisir effectivement tout à coup à voir ne serait-ce que presque des images subliminales comme ça qui apparaissent à peine en pointillé et qui nous ramènent nous téléspectateurs dans une autre dimension, à une autre temporalité. Et c'est d'autant plus intéressant que la temporalité, depuis le début de la crise sanitaire, on est complètement paumé avec ça. Il y a cette volonté de rappeler des choses à ceux qui les ont vécues. Il y a la volonté de faire venir un public plus jeune vers des problématiques. Et de montrer effectivement qu'il y a des problématiques qui sont en cours aujourd'hui et qui étaient déjà à l'œuvre autrefois. Et puis ça permet de développer une espèce de mythologie vachement riche, des décors, des anachronismes sur le plan de la réalisation et de l'écriture. C'est très intéressant.
Justement,
enfin, ça donne une liberté complémentaire, ça donne une liberté supplémentaire à l'ensemble.
Justement, par rapport à ce que tu disais sur le fait que, en cette période de pas tout à fait de confinement, mais où on connaît le couvre-feu, on est un peu perdu au niveau du temps. Est-ce que, justement, ce timing, ça explique aussi qu'on regarde dans le rétro comme ça au niveau des séries? Est-ce que c'est une réaction face à la situation actuelle dans laquelle on se trouve?
Je pense pas, parce que ces séries-là, elles sont sur la table depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. Une série comme Paris Police 1900, ça se fait pas en 6 mois. Les aventures du jeune Voltaire, ça se fait pas en 6 mois non plus. Quand Alain Tasma avait présenté il y a au moins 2 ans aux Animaux la guerre, il était déjà en train d'écrire les aventures du jeune Voltaire. Donc on était déjà dans cette mouvance-là, mais on a saisi quand même dans la mouvance de ce que font les anglo-saxons, quelque chose que je crois visiblement on sait faire et on commence d'oser le faire vraiment, et les diffuseurs suivent en mettant peut-être un peu plus d'argent dans des projets dans lesquels on n'aurait pas mis 3 sous il y a 10 ans en arrière, parce que le format, la série historique forcément est beaucoup plus cher. La fiction historique, fiction en costume drama est forcément beaucoup plus cher qu'une fiction ancré dans l'époque contemporaine. Il n'y a pas de recherche à faire particulière de décors, de costumes. Paris Police 1900, je crois que ça a été entièrement tourné à Paris. Ils ont fait cet effort-là, ce qui est un effort colossal au regard de la plupart des productions, y compris des productions internationales, où on va tourner. Je me souviens d'un Maigret de la BBC qui était censé être tourné à Paris et qui en fait était tourné à Prague. Ça n'avait aucun sens.
Avec
Rowan Atkinson. Alors déjà Rowan Atkinson, on pouvait être interloqué et il s'en tirait plutôt pas mal. Mais pas de patatras, des rues haussmanniennes qui ressemblent à des décors baroques du XVIIIe siècle. Ça n'allait pas du tout. Là, il y a des vraies choses qui sont faites et c'est très intéressant.
Constance, est-ce qu'une série historique, pour toi, ça peut rejoindre les deux maintenant? Est-ce que c'est la prochaine étape? C'est-à-dire qu'il y aura à la fois ce côté easter eggs qu'on commence à maîtriser comme les Américains et à la fois ce devoir de mémoire qui est important pour savoir d'où on vient et où on va.
En tout cas, moi, je trouve que, comme dit Julia, depuis quelques années, il y a quand même un grand mouvement d'accélération. Je veux dire, il y a 4-5 ans, on avait une fiction historique toutes les 3 ans. Là, on a eu en très peu de temps De Gaulle, Voltaire, Paris Police 1900. Faut quand même se dire qu'entre Le Village français, Victor Hugo, Ennemi d'État et Le Bazar de la Charité, il s'est écoulé beaucoup de temps, quoi. Il y avait la vie de Vantel aussi, mais moi, ce que je trouve, alors après, je suis un peu partagée parce que j'aime beaucoup l'histoire et donc on voit, il y a toujours la tentation de se dire, est-ce qu'il faut rester vrai à l'histoire ou faire quelque chose qui engage le public pour que le public ait ensuite envie de se plonger dans les sources primaires pour savoir ce qui se passe vraiment. La question se pose. Alors, Paris Police 1900, la question se pose parce qu'en fait, Fabien Nury prend beaucoup de faits historiques et après, il induit un rapport de causalité qui n'existe pas. Mais pour l'exemple du scénario, on a besoin que les ligues, on a besoin que la rivalité entre l'épine et la sûreté, on a besoin que ces faits divers aboutissent à une énorme conspiration. Et pour Voltaire, c'est encore un autre sujet. Voltaire, c'est l'idée de prendre Voltaire, de le faire parler pas forcément comme il parlerait au 18e. Oui. Peut-être finalement de le présenter comme un grand penseur mais sans trop se référer à ses textes et de se dire le personnage de Voltaire, on vous fait quelque chose dessus et on va vous montrer que c'est le début de la culture de la célébrité et que finalement c'est juste un ancêtre de nos influenceurs d'aujourd'hui. Je trouve que le pari est audacieux. Alors est-ce qu'il est réussi ou pas, moi j'ai bien aimé, mon père d'un certain âge n'a pas du tout aimé et voilà. Après chacun peut-être aussi par rapport au Voltaire qu'on a connu à l'école, mais ce que je trouve intéressant dans la jeunesse du jeune Voltaire, c'est que finalement en 2021, on fait ce qu'on fait depuis 2-3 ans les anglo-saxons avec The Great, avec Dickinson, c'est-à-dire prendre un personnage historique, Catherine la Grande ou la poétesse Emily Dickinson, ouais, et faire une série mais qui est pas du tout un biopic, pas du tout un drama, mais c'est une comédie où les anachronismes sont complètement revendiqués. Dans le cas de Dickinson,
assumer.
Ça parle de la célébrité, de trouver son grand amour, peu importe quelle est la personne qu'on aime. Pour The Great, c'est un peu la cause féminine transposée à la cour de Russie. Et moi, je trouve que c'est intéressant qu'en France, on se dise qu'on peut très bien faire cohabiter De Gaulle sur France 3, Voltaire sur France 2 et Paris Police 1900. C'est que on peut faire cohabiter tous ces styles de fiction historique. Et finalement, chacun est méritant dans son domaine, quoi.
La carte blanche de l'ACS.
Voilà, ce qu'on peut dire, c'était déjà très intéressant de vous écouter parler sur ce sujet-là. Et ce qu'on peut se dire, c'est que en fait, les séries historiques françaises, elles sont en train de changer de style, elles sont en train de trouver leur voie. Et on a hâte de voir ce que ça donne pour les prochaines. Maintenant, place au coup de cœur de Constance Jamais, qui va nous faire découvrir une petite pépite des années 90. On reste donc dans le vintage. Qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir, Constance ?
Alors, on reste d'autant plus dans la série historique que c'est une série québécoise que je crois, moi, avoir connue sur France 3. Donc, je ne sais même plus à l'époque si France 3 s'appelait déjà France 3.
Julia. FR3, peut-être.
FR3.
je crois que c'était sur France 3. Et en France, on le connaît sous le titre Émilie ou La Passion d'une Vie. Mais le titre québécois, c'est Les Filles de Caleb. Et grâce à TV5 Monde et leur site internet, on peut enfin regarder à nouveau toute la série, 20 épisodes de 45 minutes, en ligne. Et moi, j'avoue que c'est une géniale Madeleine de Proust parce qu'il y a Parmi les choses qui m'ont fait tomber dans la planète série quand j'étais gamin, enfin quand j'étais gamine, c'était cette série qui n'était pas du tout appropriée pour quelqu'un qui avait 11 ans, mais mes parents m'ont laissé regarder. Donc, j'ai eu Les Filles du Zodiac, puis j'ai eu La Passion d'une Vie, puis j'ai eu X-Files. Mais dans tout cas, ce que j'aime beaucoup, ce que j'avais aimé très jeune et ce que j'aime toujours maintenant dans cette série québécoise, c'est d'une part que ça se passe au Québec entre 1892 et 1917. Et donc, ça raconte le destin d'une des filles de Caleb, sa fille aînée, Émilie, qui ne veut pas du tout se marier et finir au champ. Et qui décide d'expliquer à son père qu'elle va devenir institutrice dans un village à la frontière parce qu'elle veut gagner sa vie et qu'elle n'est pas pressée de devenir mère au foyer. Et donc, elle arrive dans ce village. Et en fait, le fait qu'il y ait une institutrice, ça ébouriffie un peu les gens. Et surtout, elle prend sous son aile un élève qui a 16-17 ans, qui est illettré. Elle essaye de lui apprendre à lire et écrire avant qu'il devienne indépendant et quitte sa famille. Et évidemment, elle tombe amoureuse de lui. Donc, il y a quelques épisodes où on se demande, va-t-elle céder à la passion? Au contraire, va-t-elle rester dans l'éthique et laisser partir cet élève coupé du bois au fin fond du Québec? Et en fait, ce qui est touchant, c'est que dans cette série, c'est un portrait à la fois d'une société, une société paysanne du Québec où il y a beaucoup trop d'enfants, donc on les envoie dans des coins pas très peuplés du Canada pour couper du bois, coloniser. Et c'est aussi le portrait d'une femme qui essaye finalement de pas se soumettre à ce qu'on attend d'elle, puisque Émilie n'en fait un peu qu'à sa tête, et quand elle épouse son Ovila, on va un peu déchanter parce qu'Ovila, c'est un peu un mauvais garçon qui boit trop. Et en fait, elle va se retrouver toute seule à gérer le foyer, à la ribambelle d'enfants. Et ce qui est aussi touchant, et moi je l'ai su bien plus tard, c'est que c'est adapté des mémoires, de la vie réelle de la grand-mère de la romancière qui avait écrit le roman. Et je trouve que c'est assez fou de se dire que, alors peut-être il y a certaines des choses qui sont très romancées, mais ce qui est fou, c'est de se dire que il y a vraiment quelqu'un qui, au tournant du siècle, a vécu cette vie-là, est allé enseigner, est allé se perdre dans une cabine, puis elle est rentrée dans, enfin après, au moment où les enfants reviennent en ville pour trouver du travail, et donc c'est ce portrait un peu c'est un peu La Petite Fille dans la Prairie, mais dans une vision beaucoup plus adulte, beaucoup plus réaliste et beaucoup plus noire. Et moi, je me souviens quand j'avais vu ça en 93 ou en 94, j'étais devenue accro. Alors après, je sais pas quelle est la version que TV5 propose, parce qu'il y a une version qui a été doublée en français par les acteurs québécois. Et je sais pas si c'est la version québécoise qu'on peut entendre ou si c'est la version française, parce que quand on lit le livre d'Arlette Couture, il y a pas mal d'expressions québécoises et c'est très agréable à lire également. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la série, ça a été un vrai phénomène de société, parce que quand c'était diffusé à la télévision canadienne, ça coïncidait avec l'invasion de la guerre du Golfe. Et à un moment, donc, la télévision québécoise a dû s'excuser d'interrompre ses programmes et d'interrompre Émilie pour expliquer que la guerre du Golfe avait commencé. Et pour se rattraper, la semaine suivante, ils ont dû diffuser deux épisodes.
Ah, mon Dieu.
Donc, si vous avez l'occasion, regardez cette série. Alors, Émilie est jouée par une actrice qui s'appelle Marina Orsini. Et Ovila, vous le connaissez peut-être mieux, c'est Roy Dupuis, qui, je crois, a ensuite fait une petite carrière américaine et qu'on voit notamment dans une version de Nikita en série.
D'accord.
Donc, si vous avez l'occasion, regardez cette série parce que c'est très romanesque. Et c'est une manière de remonter le temps et de voir ce qui se... Je trouve que c'est un moyen de se demander ce qui se passait au Québec il y a un siècle. Et moi, sans cette série, je ne me le serais jamais demandé.
Bah écoute, je sais pas pour toi Julia, moi ça m'a donné vachement envie, La Petite Maison dans la Prairie en dark, ça fait plutôt envie, et puis je vais aller voir si ce mec est beau gosse hein, du coup, je retiendrai son nom.
Ça fait effectivement très envie. Je rappelle juste simplement que s'agissant de La Petite Maison dans la Prairie, la version, la série que l'on connaît est une adaptation extrêmement édulcorée de la saga littéraire dont elle s'inspire. Je crois qu'il va y avoir une nouvelle adaptation de La Petite Maison dans la Prairie qui est en route aux États-Unis et qui sera beaucoup plus sombre, beaucoup plus fidèle au roman. Et là, vraiment, on va pleurer, mais on va pleurer pour de vrai.
Bon, alors, très bonne nouvelle, on termine sur un scoop avec une nouvelle mouture de La Petite Maison dans la Prairie qui sera plus fidèle, d'après ce que tu nous dis, Julia, au roman. Et puis, on jettera un coup d'œil sur cette série pour découvrir un petit peu l'histoire du Canada. Et j'espère qu'ils ont laissé les accents, parce que ce sera quand même vachement plus sympa. Peut-être que ça fera aussi des vocations comme Lupin, hein, c'est-à-dire que les bouquins vont peut-être s'arracher, on l'espère aussi. Voilà, c'est fini. C'est sur cette note que nous concluons ce podcast en mode vintage. Merci à Constance Jamet du Figaro et à Julia Baudin de TV Magazine de nous avoir accompagnés ce soir. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Un épisode et j'arrête avec Beta Série. Vous pouvez écouter notre podcast sur Spotify et les plateformes dédiées. N'hésitez pas non plus à jeter un coup d'œil sur les pages Facebook et Twitter de la CS et bien sûr à nous mettre un petit like parce que ça fait toujours plaisir. Bonne soirée à tous et bon voyage dans le temps.
Un épisode et j'arrête, une émission à réécouter et à télécharger sur Beta Série, la radio, et sur tous les agrégateurs de podcasts.